Fin juin à Castres, l'Université de la e-Santé aura le plaisir de recevoir pour la première fois Stéphane Pardoux, le directeur général de l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Dans un contexte de tension sur le système de santé, la performance des établissements est au cœur des échanges que nous aurons pendant l'université, et plus encore, comment le digital peut améliorer cette performance. Alors dans cet épisode du podcast, on a voulu en savoir plus sur l'ANAP, sur ses missions, et on en a profité pour demander à Stéphane Pardoux ce qu'il attendait de la nouvelle feuille de route du numérique en santé. Bonjour Stéphane Pardoux.
Bonjour.
Bienvenue, merci de nous recevoir et de donner du temps à l'Université de la e-Santé, non seulement quand vous viendrez fin juin, mais aussi via cet épisode du podcast.
Ouais, merci de m'accueillir.
On va commencer par un constat peut-être. Alors on va parler du rôle de l'ANAP et des outils digitaux qu'elle met en place. Mais avant ça, on est obligé de parler un peu de notre système de santé. Comme on le sait, depuis 2-3 ans, il n'est pas au mieux. Il a été quand même très mis à contribution pendant la crise Covid, plus récemment la crise de bronchiolite. Il manque des lits, il manque des soignants. Dites-nous un peu de manière générale, comment est-ce que l'ANAP accompagne les établissements de santé et les établissements de soins pour naviguer cette situation qui quand même met à l'épreuve leur performance ?
Merci déjà de l'invitation et puis merci de commencer effectivement cet échange par cette question importante. Et si vous me le permettez pour y répondre, je vais essayer de prendre encore un petit peu plus de recul. Les tensions que connaît le système de santé français, elles ne sont pas singulières à la France. Les systèmes de santé sont soumis dans l'ensemble de la planète presque, que ce soit des pays les moins développés ou aux pays les plus riches, à des tensions qui perturbent le fonctionnement et qui amène de façon très claire à se poser des questions sur la soutenabilité et sur la performance de ces systèmes. Et donc juste pour donc élargir le propos, se dire et rappeler que donc la crise elle est internationale et que la crise elle tire son origine d'une situation finalement assez positive qui est l'allongement de la durée de vie et par ailleurs la demande sociétale sur la résolution d'un certain nombre de questions de santé elle augmente. Il y a 20 ans de cela, la demande sociétale autour de la résolution d'un certain nombre de sujets, de problématiques d'ordre psychiatrique, était sans doute moins marquée qu'aujourd'hui. Il y a 20 ans de ça, les questions autour de la procréation et des difficultés de procréation étaient sans doute moins marquées qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc la question qui se pose pour le système de santé, c'est au vu de cette augmentation de la demande sociétale et la demande liée à l'allongement de la durée de la vie, eh bien, quels sont les moyens collectifs dont nous disposons pour assurer ce système de santé. Et je termine là-dessus pour bien poser, j'espère, les conditions des tensions qu'on peut vivre aujourd'hui. Je n'ai pas vu, sauf à m'être trompé, que les Français, dans leur ensemble, avaient décidé qu'ils étaient favorables à une augmentation de 20% de leur cotisation d'assurance maladie pour permettre le financement du système de santé. Si demain, c'est le choix collectif du pays, sans doute que le système de santé aura une autre façon de pouvoir fonctionner. Je n'ai pas compris que c'était l'option que privilégiaient les Français aujourd'hui, et c'est le cas également dans d'autres pays. Donc, ce faisant, le sujet pour le système de santé, c'est d'arriver à absorber cette augmentation de la demande de soins ou d'hébergement, si on parle du secteur médico-social, dans un contexte où les ressources, elles augmentent. Il ne faut jamais dire que les ressources du système de santé, elles diminuent. Ce n'est pas vrai. Elles augmentent chaque année. Mais est-ce qu'elles augmentent suffisamment pour absorber l'intégralité de cette demande ? C'est ça la question qui nous est posée. Et donc, il appartient à chacune des entités du système de santé d'essayer d'optimiser son fonctionnement pour le rendre plus performant, plus efficace, plus efficient, non pas dans une logique, comme on peut l'entendre parfois, de faire du gain ou dans une logique capitalistique ou je ne sais trop quoi, non, tout simplement dans une logique de soutenabilité du système, de façon à faire en sorte que les Français soient en situation d'avoir partout un système de santé efficace. Et donc cette performance, cette efficience nécessaire dans chacune des organisations, elle est difficile à atteindre. Pourquoi elle est difficile à atteindre ? Parce que les systèmes de santé, les institutions de santé, les offreurs de soins, hôpitaux, cliniques, EHPAD, structures accueillant des personnes en situation de handicap, sont des structures complexes, sont des structures avant tout des entreprises humaines, à taille humaine, ou en tout cas, qui sont avant tout des entreprises de main-d'œuvre. Et donc, ce ne sont pas des entreprises, quoi qu'on en dise, hyper bien processées. Et donc, le rôle de l'ANAP dans ce secteur, qui finalement est un secteur qui a encore des gains d'organisation, de performance à accomplir, eh bien, c'est d'accompagner chacun des offreurs de soins, de les accompagner concrètement pour les aider à comprendre ce qu'est un nouveau dispositif, ce qu'est une nouvelle politique publique, les aider à comprendre des dispositifs parfois un peu techniques qui sont mis en place, qui permettent d'améliorer la performance, et je pourrais vous citer quelques exemples. Et puis, le rôle de l'ANAP, c'est d'aider ces établissements à accepter certaines formes de modernité, ou en tout cas à accepter d'accueillir des pratiques d'autres secteurs, de nouveaux outils. L'ANAP, c'est donc une agence nationale, publique, d'expertise nationale, de conseil aux établissements, aux ARS et d'intervention auprès des établissements pour aider à développer des organisations plus performantes.
Quels outils vous avez à votre disposition, que ce soit sur le terrain ou de manière plus homogène nationale, pour influer des mesures de performance ?
C'est une question très intéressante et qui permet d'abord de rappeler que le système français est basé, à la différence d'autres systèmes européens, sur le principe de l'autonomie des établissements et donc de la responsabilisation des établissements. Nous ne sommes pas dans le système anglais, par exemple, où il y a un grand système de santé nationale, le NHS, qui est piloté en national par une administration d'État qui, finalement, lorsqu'elle décide qu'on numérise l'anatomopathologie, eh bien, on va numériser l'anatomopathologie dans tout le pays, dans l'ensemble des établissements. Le système français est basé sur un mélange entre des grandes orientations nationales portées par les pouvoirs publics, un financement national, mais sur le terrain, chaque établissement de santé est autonome. Chaque structure, elle est maître de son avenir et elle est libre, dans le cadre fixé par la loi, mais elle est libre de développer tel ou tel mode d'organisation pour atteindre ses objectifs de performance. Une fois qu'on sait ça, on voit quel est le rôle de l'ANAP. L'ANAP, c'est une agence de conseil public qui est chargée d'aller épauler, j'aime bien cette expression, épaule contre épaule, pair à pair, expert à expert, d'aller aider les établissements. Et ça, l'ANAP le fait de façon très précise. Elle le fait par des productions générales, des productions techniques, des outils, des webinaires, des webconférences qui viennent expliquer aux acteurs de terrain un sujet. Je pourrais citer à nouveau quelques exemples si vous le souhaitez. Et puis, elle le fait surtout également par des interventions terrain concrètes à la demande des agences régionales de santé ou à la demande des établissements eux-mêmes pour aller accompagner les établissements, les aider à, comme je le disais, à franchir une marche. Et nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a des organisations. Il n'y a pas en France que des établissements qui vont mal. Il y a dans notre pays des établissements qui ont fait, et dans la région Occitanie, il y en a, des très connus, qui ont fait le choix, ou en tout cas qui ont trouvé les conditions pour mettre en place des organisations particulièrement innovantes, ou innovantes ou en tout cas efficaces. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ces établissements, ils tournent plutôt pas mal, ils ont plutôt une activité importante, ils sont souvent choisis massivement par la population, ils ont une bonne image de marque. Et ce faisant, à la fin, ils ont plutôt une situation économique saine, ou en tout cas, pour certains, peut-être moins dégradée que d'autres. Donc, notre rôle, c'est aussi de prendre ces initiatives du terrain, de les modéliser, de voir à quelles conditions elles fonctionnent, et de dire à d'autres acteurs du territoire, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut travailler, en tout cas essayer.
Il y a beaucoup de domaines sur lesquels l'ANAP aide et conseille les établissements, dans celui du digital en particulier. Quels sont les, sur le terrain, quel est ce que vous voyez qui est le plus demandé, le plus nécessaire ou sur lequel la performance est la mieux améliorée une fois des outils particuliers mis en place ?
Alors, notre certitude à l'ANAP, c'est que le digital est aujourd'hui un outil tout à la fois encore pas assez développé dans le secteur sanitaire et médico-social et que c'est pourtant une des clés de la performance du système. L'enjeu, c'est donc de faire en sorte que dans ce secteur, qui est un secteur par ailleurs de haute technologie médicale, c'est quand même un des endroits des innovations thérapeutiques, des innovations des nouvelles techniques chirurgicales non invasives, des techniques anesthésiques de moins en moins invasives également, c'est un domaine qui, paradoxalement, n'a peut-être pas fait la transformation organisationnelle liée au digital avec la même vitesse qu'elle accepte les innovations thérapeutiques, les innovations de médicaments, les innovations de nouvelles techniques. Et donc notre certitude, c'est ce que j'aurai l'occasion de porter comme message à l'Université de la e-Santé, c'est qu'il y a encore des espaces assez importants d'optimisation du fonctionnement par l'utilisation massive du digital, de la dématérialisation des processus, de l'automatisation des processus et par là même de l'utilisation, le cas échéant, des outils d'intelligence artificielle ou en tout cas d'analyse de data qui permettent d'orienter les processus. On n'est encore finalement qu'au début de ce que peut apporter la révolution digitale. Aujourd'hui, par exemple, on vient de rendre un travail suite à une aide de mission qui nous avait été fixée par le ministre de la Santé. On se rend compte que dans les établissements français, aujourd'hui, les plannings, la gestion des plannings, donc la gestion de l'organisation du travail, elle est très peu dématérialisée. Elle est beaucoup encore faite sur des petits tableurs Excel, voire même sur des outils maison. Qui peut imaginer ça en 2023 dans un secteur qui est avant tout un secteur de main-d'œuvre ? Et donc, Voilà, cet exemple-là montre qu'on n'est pas encore au maximum de l'organisation optimisée. Combien d'établissements hospitaliers ont mis en place aujourd'hui la prise de rendez-vous en ligne? Je parle d'établissements hospitaliers. Selon les derniers chiffres dont je disposais, à peu près 20%.
Alors que tout le monde, du point de vue du grand public, pour son rendez-vous médical de ville,
utilise des opérateurs privés, voilà. des plateformes, dont la plateforme Doctolib, bien sûr, bien connue en France. Ce n'est pas le cas à l'hôpital. C'est pas le cas à l'hôpital. Or, des solutions technologiques, elles existent. Et donc, le rôle de l'ANAP, c'est justement d'aider, d'amplifier, de porter, de pousser les établissements qui sont soumis à un grand nombre de contraintes, à beaucoup de demandes, comme je le disais, à une augmentation de l'offre dans un contexte de tension sur les métiers. Donc, tout ça fait une rencontre un peu, pas explosive, mais une rencontre très tendue au quotidien. Eh bien, le rôle de l'ANAP, c'est d'outiller, c'est de donner à voir, de dire, eh bien, allez, prenons un exemple en Occitanie, à la clinique Pasteur à Toulouse, ils ont dématérialisé à hauteur de 100% quasiment ou pas loin leur processus administratif. Bon, eh ben, si la clinique Pasteur à Toulouse l'a fait, qui est une superbe clinique, si elle l'a fait, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans l'ensemble des hôpitaux ou des cliniques de la région Occitanie? Pour quelle raison? Si c'est faisable quelque part, ce n'est pas une question qu'il n'y a pas la technologie ou ce n'est pas une question que ce n'est pas compréhensible. Donc, le rôle de l'ANAP, c'est de prendre ses meilleures pratiques et d'aller essayer de faire en sorte qu'elles deviennent le standard, et non pas le gold standard, mais le standard dans l'ensemble du pays.
Et finalement, le temps d'avoir des retours sur certaines de ces installations, de ces pratiques, fait que naturellement, tout le monde ne peut pas s'y mettre au même moment. Chacun attend un peu de voir ce qui se passe chez l'autre. Chacun a besoin d'avoir vu une implémentation réussie. Et donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui explique que ça met un petit peu de temps, que les usages mettent un peu de temps à changer?
Oui, c'est ce que je... Vous avez raison, c'est le principe de la libre administration, de la liberté de chacun des établissements. Il y a toujours des précurseurs et il y a toujours des gens qui se servent de ce côté précurseur. Mais ce à quoi il faut veiller, c'est la rapidité avec laquelle l'ensemble de ces innovations, portées par les start-up, portées par les industriels, deviennent des standards dans l'ensemble du marché. Parce que, vu de la nappe, c'est bien d'avoir des précurseurs, mais à la fin, c'est surtout bien d'avoir des choses généralisées pour les Français. Sinon, on en arrive à des structures vraiment à deux vitesses. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment la rapidité avec laquelle les choses essaiment. Et c'est vrai que le secteur de la santé, qui est un secteur soumis vraiment à de très grandes contraintes, qui est vraiment un secteur soumis à une exigence des usagers, des pouvoirs publics, de continuité, d'universalité, de reste à charge faible, de technologie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs à qui on fait peser le même nombre de contraintes. Il a un petit défaut parfois, c'est qu'il peine parfois à aller regarder ce qui se passe dans d'autres domaines. Or, très souvent, les problématiques qui sont celles des établissements de santé sont des problématiques que l'on peut rencontrer dans d'autres domaines. Je prends deux exemples. Je reprends à nouveau l'exemple des ressources humaines. La gestion des plannings en continuité, ce sont des problématiques qui existent dans le domaine aéronautique, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des transports publics, dans le domaine de la production nucléaire. Il y a des domaines qui sont radicalement différents d'une autre dans les objectifs, mais qui, dans les moyens, finalement, fonctionnent un peu comme un établissement de santé. Sans doute qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe ailleurs. Je cite un deuxième exemple, la logistique. Aujourd'hui, la grande évolution qu'on voit en matière de logistique, c'est la robotisation et l'automatisation. Il suffit de voir parfois les quelques images qu'on peut voir des robots transportant des charges. Eh bien, est-ce que le secteur hospitalier est suffisamment au clair avec les enjeux en matière de robotisation et d'automatisation? Peut-être pas. C'est la raison pour laquelle, ça donne un exemple des travaux de l'ANAP, nous avons une grande journée automatisation, robotisation de la fonction logistique qui aura lieu donc au mois de juin, dans lequel on a 700 personnes inscrites pour venir participer à une grande journée sur c'est quoi la robotisation, c'est quoi l'automatisation pour la logistique hospitalière. Quelques exemples réussis à Nantes, à Cholet, le cas échéant dans d'autres pays européens, pour donner à voir, pour expliquer quel est le marché actuel, quelles sont les réalisations dans notre secteur, dans d'autres secteurs. Nous, notre objectif, c'est vraiment quand même que le côté précurseur, il en faut toujours, il en faudra toujours de plus en plus, mais que très vite, on soit dans des phases de généralisation.
On arrive là cette année à un moment où la feuille de route se renouvelle. Elle est en cours de construction, la feuille de route 2023-2027. Mmh. Je sais que votre rôle à l'ANAP, c'est en partie d'implémenter cette feuille de route. Mmh. Qu'est-ce que vous attendez de ce qui va être fait dans les 4-5 prochaines années?
Sans doute qu'il faut poursuivre à nouveau, dans ce domaine-là, qui est celui de la e-santé, de la transformation des organisations liées au digital, il faut poursuivre l'acclimatation des dirigeants à ce sujet en mettant en évidence à quel point les investissements humains et financiers éventuellement consentis dans ce domaine sont des investissements qui génèrent des retours sur investissement positifs et pas uniquement économiques, qui sont des véritables retours sur investissement organisationnel et qualitatif. Et je reprends mon exemple de la clinique Pasteur à Toulouse. Les retours d'expérience de la clinique Pasteur montrent que l'investissement consenti en matière de digitalisation du parcours patient est un investissement rentable, tant sur le plan, prenons ce petit sujet, rentabilité économique, puisque sans doute que cette digitalisation a amélioré l'image de marque, la fluidité, donc a amené des patients à avoir envie de préférer la clinique Pasteur à d'autres structures. Et par ailleurs, et c'est peut-être plus important, en tout cas tout aussi important, une rentabilité humaine, puisqu'elle facilite certains process, elle facilite des organisations, et donc elle rend sans doute le travail plus simple, plus efficace. Donc nous, ce qu'on en attend, c'est qu'il y ait une acclimatation plus importante encore des dirigeants et une priorisation plus importante encore d'un dirigeant. Quand on est en situation de crise, de tension, c'est sans doute par des organisations, par des choix un peu plus radicaux que l'on arrive à régler un certain nombre de problèmes. Le deuxième point, c'est que dans le domaine de la transformation digitale, de l'utilisation massive de la e-santé, il y a une question de l'ordre de la sécurité et de la réassurance. Et nous en attendons, dans ces années, il faut sans doute que le secteur prenne à bras-le-corps, et il a commencé à le faire, là pour le coup il a commencé à le faire, un sujet qu'il pensait loin de lui, qui est celui de la cybersécurité. Qui était un sujet, je suis directeur d'hôpital, je l'ai été pendant 25 ans, je dois à l'honnêteté de dire que jamais je n'aurais imaginé que dans les priorités d'une gestion hospitalière et de la gestion numérique d'un hôpital, la question de la cybersécurité deviendrait aussi importante. Jamais je n'aurais imaginé qu'un hôpital pouvait être un lieu privilégié justement d'attaques cyber. Et l'ANAP d'ailleurs est missionnée sur un certain nombre de sujets autour de la cybersécurité en lien avec la feuille de route nationale. Eh bien, sans doute qu'il faut que dans les années qui viennent, les équipes hospitalières, les équipes dirigeantes, les équipes techniques soient encore plus au clair avec les enjeux autour de cette cybersécurité. Et le troisième point que je voudrais évoquer, c'est que moi j'espère que dans ces années qui viennent autour de la e-santé, de la transformation digitale, il y ait encore plus d'usages autour de la télésanté, autour de la téléradiologie, autour de la téléanapathe, autour de la téléconsultation, de la télésurveillance, de la téléexpertise. Autant de dispositifs qu'il convient certes d'encadrer, mais autant de dispositifs dont on voit, quand elles sont bien utilisées, quelles sont des gains pour le patient, pour les équipes de soins, et au final, quelles sont sans doute des gains pour le système par des économies de fonctionnement. L'avenir du système de santé, c'est sans doute le domicile. Et donc le soin à domicile, ça ne s'entend qu'avec des outils digitaux qui permettent la transmission d'informations et le contact dématérialisé avec les professionnels de santé. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans ces quatre années, il y ait des questionnements sur des choix organisationnels qui, à nouveau, s'inscrivent dans cette logique de sécurité, mais s'inscrivent dans cette logique de modernité et d'économie. Je pense notamment à l'usage du cloud. Voilà un sujet qui, il y a quelques années, pareil, n'était pas extrêmement clair pour les hospitaliers. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une tendance majoritaire qui est de dire sans doute qu'il y a, pour des questions de sécurité, pour des questions de rationalité, de maîtrise technique, nécessité de développer le recours au cloud dans les établissements. Et donc l'ANAP travaille sur ce sujet. Nous avons un plaidoyer des outils techniques et des outils de mesures de bonne pratique sur ce sujet. Et nous sortons une production avant l'été autour du recours au cloud pour les établissements de soins. Donc voilà, je pourrais en citer d'autres, mais voilà quelques-uns des grands objectifs ou des grandes, puisque vous, non pas des grands objectifs, mais des vœux qu'on pourrait formuler sur les quatre années de la feuille de route et en tout cas des sujets sur lesquels l'ANAP va être mobilisée aux côtés de la DNS et aux côtés des pouvoirs publics.
Alors certains de ces sujets, on pourra en rediscuter pendant l'Université de la e-santé, fin juin à Castres. Vous avez tout à l'heure parlé du NHS, vous avez cité le NHS comme un exemple différent de l'exemple français où tout était quand même beaucoup plus centralisé en termes d'initiatives et de descente vers les établissements hospitaliers et les établissements médico-sociaux. Vous aurez l'occasion de débattre avec Sam Shah, qui est l'ancien monsieur numérique de la NHS justement. Et puis puisque vous avez parlé de la clinique Pasteur à Toulouse, sa directrice de la relation et de l'expérience patient, Céline Auron, sera également l'une des invitées au programme de cette Université de la e-santé.
Que du beau monde.
Voilà. Merci pour votre temps à nouveau, Stéphane Pardoux, et puis rendez-vous à Castres.
Merci, et à très bientôt.
Merci encore à Stéphane Pardoux pour le temps qu'il nous a accordé. Rendez-vous à Castres pour assister à la grande conférence e-santé, Oasis ou Mirage pour nos systèmes de santé. D'ici là, retrouvez l'expertise de tous les intervenants qui ont été invités dans le podcast grâce aux épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Pour en savoir plus sur le programme de l'Université de la e-santé, rendez-vous sur son site internet. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. À bientôt !